Le livre des Proverbes de l'Ancien Testament fait partie des écrits de sagesse. Il est très pratique et donc utile pour bien mener et réussir sa vie. On y lit que des frères divisés sont plus difficiles à gagner qu'une ville forte, et leurs différences sont comme les verrous d'un château. Je suis sûr que vous en connaissez des gens, des frères qui sont comme ça. Ce fut en tout cas l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Les descendants de ce dernier s'appelaient les Édomites et habitaient une montagne qui s'étendait au sud de la mer Morte, au golfe d'Aqaba sur la mer Rouge. Quoique frères des Israélites, ils nourrissaient à leur égard une haine farouche. Pour cette raison, leur animosité leur valut d'être plusieurs fois l'objet des menaces des prophètes. D'ailleurs, de toutes les sentences contre les différents ennemis d'Israël, celle dirigée contre les Édomites fait partie des plus longues. Je continue à lire dans le chapitre 49 du livre de Jérémie. Prophétie sur Édom. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Le peuple de Théman n'a-t-il plus de sagesse? Et les gens clairvoyants n'ont-ils plus de conseils? Leur sagesse est-elle perdue? Fuyez, tournez le dos, cachez-vous dans des trous profonds et restez-y, habitants de Dedan. Car voici, je vais fondre sur Ésaü la ruine. Le moment est venu où il doit rendre compte. Versets 7 et 8. Théman et Dedan sont dans le sud d'Édom. Les habitants de Théman avaient une réputation de sagesse. La capitale de ce royaume s'appelait Petra en grec et Séla en hébreu. Elle se trouve au fond d'un cirque profond creusé par les eaux. Des parois de grès très escarpées enserrent la ville qui est traversée par un ruisseau dans toute sa longueur. La gorge qui y accède s'appelle Vallée de Moïse. Cette ville était réputée imprenable et plusieurs envahisseurs s'y étaient cassés les dents. Je continue le texte plus loin. Car voici ce que déclare l'Éternel. Ceux qui n'étaient pas condamnés à boire cette coupe la boiront tout de même. Et toi, tu serais acquitté? Non, certainement pas, tu ne seras pas acquitté et tu devras boire la coupe. Verset 12. Si le peuple de Dieu va subir la colère divine à cause de ses transgressions, à plus forte raison Édom, parce qu'il a manqué de compassion envers son frère Jacob. Je continue plus loin. La peur que tu inspires et ton orgueil t'égarent, toi qui as ta demeure dans les creux des rochers et qui occupes le sommet des collines. Oui, comme l'aigle, tu élèves ton nid de là et je te ferai tomber, l'Éternel le déclare. Oui, Édom deviendra un endroit dévasté, tous ceux qui passeront par là en seront horrifiés. Ils pousseront des cris à la vue de ses plaies, il en sera comme lors de la catastrophe de Sodome et Gomorre et des villes voisines. L'Éternel le déclare, il n'y aura personne qui y habitera, et aucun être humain n'y séjournera plus. Versets 16 à 18. Édom était orgueilleux, une faute qui en suscite d'autres et que Dieu a particulièrement en horreur. C'est ce péché qui causa la chute de Lucifer et le transforma en Satan, le diable. Nabuchodonosor prit les villes édomites de la plaine, mais n'attaqua pas la capitale. C'est entre le 5e et le 3e siècle avant Jésus-Christ que Petra passa des Édomites à une tribu arabe. Leur roi portait le titre d'Arétas, un mot qu'on retrouve dans la seconde épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Ce royaume disparut en 105 après Jésus-Christ, conquis par Rome. Aujourd'hui encore, on voit dans Petra des sépulcres, des temples en ruines, un amphithéâtre et un arc de triomphe. Si vous voulez, vous pouvez aller vous y installer, dans cette ville fantôme, sans payer de loyer. Mais sachez que tous ceux qui ont tenté le coup n'y sont pas restés longtemps, car c'est un endroit lugubre et maudit. Les Arabes y plantent occasionnellement leurs tentes pour une nuit ou deux, mais c'est tout. Et pourtant, c'est une ville qui n'a jamais été détruite, prête à l'emploi, clé en main pour ainsi dire, mais elle reste déserte. La menace contre Édom s'est littéralement accomplie, tout comme celle contre la ville antique de Tyr qui fut jetée dans la mer et jamais reconstruite, ce qui avait aussi été prophétisé. Contrairement à l'Égypte, Moab et Ammon, aucune promesse de restauration n'est donnée concernant Édom. Après avoir été chassés par les Arabes, ils immigrèrent dans le sud de Juda où ils furent soumis aux Israélites qui leur imposèrent la circoncision. C'est ainsi qu'ils devinrent nominalement des Juifs. Hérode le Grand, le tyran qui fit massacrer les enfants de Bethléem, était édomite. Je continue le texte plus loin avec la prophétie contre Damas. Hamat ainsi que Arpad sont couvertes de honte, car elles ont appris de mauvaises nouvelles. Elles sont démoralisées, c'est la mer en tourmente qui ne peut s'apaiser. Verset 23. Hamat est à presque 200 kilomètres au nord de Damas. C'était une importante cité hittite qui devint la limite du royaume de Salomon. Arpad est toujours associé à Hamat. Les deux villes fonctionnent ensemble. Le royaume syrien fut conquis par l'Assyrie. Plus tard, les Syriens passèrent sous contrôle égyptien après la victoire du pharaon Necho sur Juda à la bataille de Megiddo. Mais suite à la cuisante défaite du pharaon à Carchemish face aux Babyloniens, Damas recouvra momentanément son indépendance. Cependant, Jérémie annonce que cette ville n'échappera pas à Nabuchodonosor, dont la venue est une très mauvaise nouvelle. Après leur défaite, les Syriens feront partie du royaume babylonien et seront incorporés dans les troupes auxiliaires. Je continue plus loin. Prophétie sur Kédar et sur les royaumes de Hatsor, vaincus par Nabuchodonosor, roi de Babylone, voici ce que déclare l'Éternel. Debout à l'assaut de Kédar, dévastez tout chez les tribus nomades à l'orient du Jourdain. Verset 28. Les tribus de Kédar étaient nomades. Celles de Hatsor demeuraient dans des villages. Ces Arabes sont aussi appelés fils de l'Orient. Comme les autres peuples, ils seront conquis par Nabuchodonosor et très facilement parce qu'ils n'avaient aucune ville fortifiée et ne se méfiaient pas de leurs voisins. Je continue plus loin et finis le chapitre 49. Voici le message que l'Éternel adressa au prophète Jérémie au sujet d'Élam, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. « Moi, je vais briser l'arc d'Élam, principale arme de sa puissance. Je lancerai l'épée à leur poursuite jusqu'à leur extermination. » Mais par la suite, je ferai revenir les captifs élamites. L'Éternel le déclare. Versets 34 à 39. Alors que les prophéties précédentes furent données pendant la quatrième année du roi de Juda, Jéhoiakim, celle-ci le fut 8 ou 9 ans plus tard, sous le règne de Sédécias, dernier roi de Juda. Élam était un pays coincé entre la Babylonie, la Médie, la Perse et le golfe Persique. Il faisait partie de l'Empire assyrien, mais à l'époque de cette prophétie, il avait recouvré son indépendance. Plus tard, Élam, avec Suse, sa capitale, fera partie de l'Empire perse. Le jugement divin qui va atteindre cette nation sera aussi le moyen grâce auquel ces gens apprendront à connaître le vrai Dieu et le salut, puisque dans le livre des Actes, on trouve des Élamites venus à Jérusalem pour adorer l'Éternel. Nous arrivons au chapitre 50, qui est une prophétie contre Babylone et qui clôt les oracles contre les nations païennes. Elle est de loin la plus longue de toutes et complète les paroles antérieures du prophète en s'inspirant largement des menaces d'Ésaïe contre Babylone. La prophétie de Jérémie atteste qu'il n'était pas un traître à la solde des Babyloniens. Elle fut donnée après la première déportation qui eut lieu à la quatrième année du règne de Jéhoiakim. À cette époque, tout portait à croire que Juda allait disparaître et Babylone continuait à monter en puissance. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Je commence à lire le chapitre 50. Voici le message que l'Éternel communiqua par le prophète Jérémie au sujet de Babylone et du pays des Chaldéens. Proclamez la nouvelle chez les nations, publiez-la, élevez l'étendard. Oui, faites-la savoir et ne la cachez pas. Dites que Babylone est prise, Bel a perdu la face. Marduk est tout tremblant. Ses statues sont honteuses et ses idoles tremblent. Versets 1 et 2. Bel et Marduk sont les noms de la principale divinité du panthéon assyrien et chaldéen. La défaite de Babylone sera aussi celle de ses dieux. Je continue. Car du septentrion, une nation vient t'attaquer qui transformera ton pays en une terre dévastée où nul n'habitera. Des hommes jusqu'aux bêtes, tous partiront pour fuir. Verset 3. Cette nation, ce sont les Mèdes dont le royaume se trouvait à l'est de Babylone. Alliés aux Perses, ils prendront cette ville. Je continue. En ce temps-là, à cette époque, l'Éternel le déclare, les Israélites viendront avec les Judéens, ils marcheront en larmes et ils se tourneront vers l'Éternel leur Dieu. Et ils s'informeront du chemin qui mène à Sion, ils tourneront vers elle leur regard. Venez, se diront-ils, attachons-nous à l'Éternel par une éternelle alliance qu'on n'oubliera jamais. Versets 4 et 5. La chute de Babylone entraînera la libération d'Israël. Mais Jérémie entrevoit aussi le retour des Juifs de la diaspora à la fin des temps. Le châtiment du peuple élu a porté ses fruits, car il est repentant et il a maintenant hâte de conclure avec son Dieu la nouvelle alliance établie par le sang que Jésus a versé. Je continue. Mon peuple était semblable à des moutons perdus. Leurs bergers les ont égarés, ils les ont détournés sur les montagnes, de montagne en colline, ils allaient en oubliant leur bercail. Verset 6. Les mauvais responsables politiques d'Israël avaient conduit le peuple à célébrer des cultes idolâtres d'un haut lieu à un autre. Je continue plus loin. Fuyez de Babylone et du pays des Chaldéens, oui, sortez-en comme des boucs en tête du troupeau. Verset 8. Alors qu'auparavant, Jérémie avait exhorté ses compatriotes déportés à s'installer durablement à Babylone. Dans cet oracle, il adresse l'exhortation inverse. C'est le moment de retourner au pays. Je continue plus loin. Israël est semblable à une brebis isolée pourchassée par des lions. Le premier l'a mangé, c'est le roi d'Assyrie, et le suivant lui a broyé les os, Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Verset 17. Image de deux bêtes féroces. L'une dévore les chairs et la seconde brise les os. Ce sont les Assyriens qui ont détruit le royaume des 10 tribus du Nord et les Babyloniens qui ont anéanti le royaume de Juda. Je continue. Et c'est pourquoi voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Je vais rétribuer le roi de Babylone et son pays, tout comme j'ai rétribué le roi de l'Assyrie. Verset 18. La Syrie fut vaincue par une coalition de Mèdes et de Chaldéens. Et Babylone fut vaincue par une coalition de Mèdes et de Perses. Je continue en compressant. Je ramènerai Israël dans son enclos. En ce temps-là, l'Éternel le déclare, on aura beau chercher la faute d'Israël, elle aura disparu. Le péché de Juda, on ne le retrouvera plus, car je pardonnerai à ceux que j'aurai épargnés. Versets 19 et 20. Le rétablissement d'Israël sera d'abord spirituel. Pour tous les prophètes, le retour de l'exil se confond avec l'avènement du millénium en la personne du Messie. Je continue plus loin. « Je t'ai tendu un piège et tu as été prise au Babylone sans t'en apercevoir. Oui, tu as été découverte et l'on s'est emparé de toi car tu t'es attaqué à l'Éternel lui-même. » Verset 24. Cette prophétie s'est accomplie à la lettre à deux reprises par les deux rois Cyrus puis Darius qui prirent Babylone par ruse et s'en rendirent maîtres avant que les habitants se rendent compte de ce qui leur arrivait. Je continue plus loin. Écoutez, on entend la voix de ceux qui fuient et des rescapés de Babylonie. Ils viennent apprendre à Sion quelle rétribution l'Éternel notre Dieu a exercée contre elle et comment il a fait payer ce qu'elle a fait contre son temple. Verset 28. Dieu se venge des Babyloniens qui ont détruit son temple lors de la prise de Jérusalem. Le chapitre continue sur le même registre. Il reprend aussi des passages d'Ésaïe ainsi que des menaces déjà énoncées contre Jérusalem ou Édom, mais qui sont ici appliquées à Babylone. Nous arrivons maintenant au chapitre 51 que je commence à lire. Voici ce que déclare l'Éternel. Je vais faire souffler sur Babylone et sur les habitants de Lev-Kamaï un vent de destruction. Verset 1. Lev-Kamaï signifie le cœur de mes adversaires. C'est une manière codée d'écrire le mot chaldéen Selon un procédé d'écriture qui consiste à remplacer la première lettre de l'alphabet par la dernière, la deuxième par l'avant-dernière, etc. Ce jeu de mots a pour but de souligner que la puissance babylonienne est le centre de l'opposition à Dieu, ce qui motive son châtiment. On retrouve ce genre de codage énigmatique dans le livre de l'Apocalypse où on lit « Sur son front, la femme portait gravé un nom mystérieux signifiant « la grande Babylone, la mère des prostituées et des abominations de la terre ». Fin de citation. Je continue le texte de Jérémie plus loin. « Leur pays est souillé d'offense à l'égard du Dieu saint d'Israël. La terre d'Israël et celle de Juda n'ont pas été abandonnées au veuvage par l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. » Verset 5. Ici nous est donnée la double raison du châtiment de Babylone. D'une part, la mesure de son iniquité est désormais à son comble, et d'autre part, ce jugement permet la délivrance d'Israël que son époux divin n'a pas abandonné pour toujours. Je continue plus loin. « Nous avons soigné Babylone. Elle n'a pas été guérie. Abandonnons-la donc, et que chacun de nous rentre dans son pays, puisque son jugement touche à présent le ciel et qu'il atteint les nues. » Verset 9. Précédemment, Jérémie avait exhorté les Israélites à prier pour Babylone, où ils étaient exilés. Mais après avoir fait leur possible en sa faveur, les anciens captifs, voyant que leurs efforts sont inutiles, la quittent et retournent dans leur patrie. Je continue plus loin. « Élevez l'étendard à travers le pays et parmi les nations, sonnez du cor. Appelez les nations pour combattre contre elles. Convoquez les royaumes d'Arara, de Mini et d'Ashkenaz contre elles. Nommez des généraux pour l'attaquer. Lancez des chevaux à l'attaque comme un essaim de sauterelles. » Verset 27. L'étendard est le signe de ralliement de tous les ennemis de Babylone. Ils comprennent Arara qui était un vaste royaume montagneux qui couvrait le nord de la Mésopotamie et l'est de la Turquie actuelle. Mini est en Arménie. Ce nom est mentionné dans des inscriptions assyriennes. Et Ashkenaz représente les Scythes au nord et à l'est de la mer Noire. Je continue plus loin. Les habitants de Babylone rugiront tous ensemble comme des jeunes lions. Ils hurleront tout comme des lionceaux. Et quand ils seront échauffés, je leur servirai un festin, je les enivrerai afin qu'ils soient en liesse. Puis ils s'endormiront d'un sommeil éternel, ils ne se réveilleront plus, l'Éternel le déclare. Versets 38 à 39. Les Babyloniens et leurs rois sont comparés à un lion avec ses lionceaux. Au moment même où ils auront la fièvre de la curée en dévorant les pays conquis, la main invisible de l'Éternel ajoutera à leur banquet sanglant un breuvage enivrant. La coupe de sa colère qui les plongera dans un assoupissement d'où ils passeront dans le sommeil éternel. Je continue plus loin. Rescapez de l'épée, partez, ne restez pas sur place. Au loin, pensez à l'Éternel et à Jérusalem. Verset 50. Cet appel est adressé aux Israélites qui ont survécu afin qu'ils n'oublient pas que la reconstruction de Jérusalem est à la gloire de l'Éternel et que c'est le but de la délivrance dont ils font l'objet. Je continue plus loin. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les larges murs de Babylone seront démantelés. Ses hautes portes seront la proie des flammes. Les peuples travaillent pour rien. Les nations se fatiguent pour ce qui périt par le feu. Verset 58. Selon deux historiens de l'Antiquité, l'espace entre les deux rangées de remparts entourant Babylone permettait à deux attelages de quatre chevaux de se croiser entre eux. La ville avait 100 portes, 25 de chaque côté, et l'une d'entre elles faisait 65 mètres de haut. Je continue le texte plus loin en compressant. Voici les instructions que le prophète Jérémie donna à Seraïa lorsque celui-ci se rendit à Babylone avec Sédécias, roi de Juda, la quatrième année de son règne. Verset 59. Ici commence un appendice historique de la prophétie précédente. Seraïa est le frère de Baruch, secrétaire de Jérémie. Suite à des troubles, Nabuchodonosor convoqua tous ses vassaux afin de s'assurer de leur loyauté. Le roi Sédécias fut donc obligé de s'y plier. Je finis le chapitre 51. Jérémie dit à Seraïa, « Quand tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles aux exilés. Puis tu diras, « Éternel, c'est toi-même qui as parlé de détruire ce lieu-ci pour que personne n'y habite plus, ni homme ni bête, mais qu'il devienne pour toujours un désert. Quand tu auras terminé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le lanceras au milieu de l'Euphrate en disant, « Ainsi sombrera Babylone et elle ne se relèvera pas du malheur que je vais lui envoyer. Et ses habitants disparaîtront. » Ici s'achèvent les paroles de Jérémie. Versets 61 à 64. Jérémie ordonne l'accomplissement d'un nouveau mime prophétique. Puisque ce sont là ses dernières paroles, le dernier chapitre a dû être rajouté par l'éditeur. Il reproduit presque intégralement des passages du deuxième livre des Rois, mais comporte aussi quelques traits spécifiques. On apprend qu'il y eut 3 charrettes d'exilés pour un total de 4600, alors que le second livre des Rois parle de 18 000 personnes rien que pour la première déportation. Ici, il s'agit donc soit d'exil secondaire, soit seuls les chefs de famille sont comptabilisés. Nabuchodonosor attaqua Jérusalem à 3 reprises, mais la première fois, il n'y a pas eu de déportation. Ces détails sont fastidieux, mais ils montrent combien l'Écriture sainte est imbriquée dans l'histoire humaine. Je lis la fin du chapitre 52. Le successeur de Nabuchodonosor, Evil-Merodach, gracia Jéhoiakim, roi de Juda, l'année de son accession au trône de Babylone et le fit sortir de prison. Il le traita avec bonté, lui accorda une situation supérieure à celle des autres rois exilés avec lui à Babylone. Versets 31 et 32. Cependant, comme ce roi avait été maudit par Dieu, aucun de ses descendants ne pouvait plus régner et c'est ainsi que sa lignée, qui remontait jusqu'à David par Salomon, s'est éteinte. Mais il existe une autre filiation par Nathan, un autre fils de David qui descend jusqu'à la Vierge Marie. En conséquence, Jésus possède le droit légal de régner sur Israël car il est de la lignée de David par sa mère. Le livre de Jérémie est déprimant, mais au-delà du sombre présent, 2 points lumineux brillent devant les yeux du prophète. Le premier est le retour de l'exil et l'autre, plus éloigné, est l'établissement d'une alliance nouvelle que l'Éternel conclura avec son peuple. Et dans cette promesse s'exprime la vision la plus sublime et la plus élevée de la prophétie israélite.